Alors que l'intelligence artificielle nous accompagne déjà quotidiennement dans nos déplacements, nos achats en ligne ou sur les réseaux sociaux, l'irruption de ChatGPT dans l'actualité a mis en lumière toute sa puissance. Pourtant, il ne s'agit que d'un avant-goût, car dans le domaine, ChatGPT est l'arbre qui cache la forêt de l'intelligence artificielle. Les IA sont en effet capables de réaliser des tâches extrêmement complexes et variées en un temps record et en se basant sur d'énormes quantités de données. Mais loin des clichés et des films de science-fiction, elles ne sont pas dotées d'une conscience, ou encore moins d'une quelconque volonté propre. Construites sur des modèles statistiques ultra-puissants, elles sont donc encore incapables de penser ou de raisonner comme le ferait un humain. Le terme « intelligence » est de ce fait mal choisi, ou alors il faudrait plutôt parler d'intelligence superficielle. Et ChatGPT est sans doute le meilleur exemple du risque de malentendu. Capable de passer haut la main l'examen du barreau de New York ou de rédiger un article scientifique pointu sur la fission nucléaire, le chatbot s'en mêle les pinceaux quand on lui demande quelle est la différence entre un œuf de poule et un œuf de vache. Sa réponse, l'œuf de vache est plus gros. Il ne faut pas pour autant se laisser distraire par ces bugs de jeunesse, les progrès techniques de l'intelligence artificielle sont fulgurants. En quelques mois, nous avons assisté à des bonds de géants qui nourrissent la promesse d'une quatrième révolution industrielle. Aussi disruptive que l'invention de l'imprimerie, rien que ça. Une montée en puissance qui inquiète par sa vitesse et son ampleur. Tous les secteurs d'activité ou presque sont concernés, avec des gains de productivité vertigineux à la clé et une dynamique qui remet en cause, in fine, le monde du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Autrement dit, on peut se demander ce qu'il nous restera à nous, humains, quand des intelligences artificielles opaques et toutes puissantes auront atteint leur plein potentiel. Sans compter les questions morales et éthiques si l'on décide de confier à ces boîtes noires techniques des tâches et des décisions dans le domaine de la santé, de la justice ou de la conduite de véhicules autonomes. Mais pour aborder sereinement ces questions, il faut avancer pas à pas. C'est la promesse de ce podcast, progresser étape par étape pour comprendre la puissance, les limites et les enjeux de cette technologie, appelée à s'inviter durablement dans nos vies personnelles et professionnelles. Je m'appelle Nicolas Becquet, bienvenue dans En clair, le podcast de l'Écho qui vous donne les clés pour comprendre une tendance ou une innovation qui pourrait changer la donne. Un podcast réalisé avec le soutien d'EY. Pour nous accompagner dans la découverte de l'intelligence artificielle et comprendre son fonctionnement et ses enjeux, j'ai le plaisir de recevoir Antonin Descamps, professeur en innovation média et journalisme à l'UC Louvain et ingénieur de formation. Bonjour Antonin.
Bonjour.
Alors ces derniers mois, Antonin, vous avez assisté, comme tout le monde, au déferlement d'annonces et de prises de position autour de l'IA. Et lors de cette frénésie médiatique, on a beaucoup, beaucoup entendu le terme de nouveauté. Pourtant, l'intelligence artificielle, ça n'a rien de neuf. Et ça a même commencé il y a 60 ans avec un certain Alan Turing,
qui s'est demandé un petit peu si les machines pouvaient penser. Alors, tout dépend évidemment de ce qu'on entend par penser, mais l'idée était de voir dans quelle mesure les machines étaient en mesure, au fond, d'automatiser un certain nombre d'actions, de choses qui sont actuellement faites par les humains, essentiellement de collecter, de traiter des données, et puis de prendre des décisions sur base de ces données. Et ça s'inscrit, au fond, dans une trajectoire encore bien plus ancienne de l'innovation dans l'histoire humaine, j'ai envie de dire, qui est cette volonté d'automatiser et d'externaliser des fonctions humaines. Et dans ce cas-ci, dans le cas de l'intelligence artificielle, il s'agit essentiellement d'externaliser des fonctions cognitives. Donc ça va être la perception visuelle, l'ouïe, l'expression et la compréhension du langage naturel. Donc tout ça, ce sont des fonctions qu'on appelle cognitives.
Et on connaît le test de Turing. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est ?
Alors, le test de Turing, oui, tout à fait. C'est un test que Alan Turing avait lui-même appelé le jeu de l'imitation, qui a d'ailleurs donné son nom à un film bien connu sur la vie d'Alan Turing, qui consistait à mettre en place un test dans lequel un humain discute soit avec une machine, soit avec un humain. Et le test en question, c'était de faire en sorte de voir si l'humain était en mesure de savoir s'il discutait avec l'humain ou avec la machine. Donc, de voir en fait si la machine était capable de tromper l'humain en se faisant passer elle-même pour un humain. Ce test était présenté comme un peu le test ultime de l'intelligence artificielle, même si Alan Turing avait déjà émis des réserves par rapport à ce test. Ben, on le verra, c'est pas nécessairement une preuve d'intelligence totale, disons, que de pouvoir se comporter comme un humain ou de pouvoir tromper un autre humain en se faisant passer pour un humain.
Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a eu une décennie d'accélération. L'IA est désormais partout dans notre quotidien, sans d'ailleurs qu'on s'en rende vraiment toujours compte. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Eh bien oui, il y a toutes les applications de reconnaissance faciale. On sait qu'il y a beaucoup, de plus en plus de caméras de surveillance dans l'espace public. Ben, ces images sont analysées automatiquement pour reconnaître des visages. Les véhicules autonomes, bien sûr, on en entend beaucoup parler. Et là, je ne parle pas nécessairement des véhicules autonomes totalement autonomes, qui ne sont pas encore nécessairement très répandus dans nos routes, mais les quelques exemples d'automatisation ou d'autonomie des véhicules, le fait de pouvoir suivre des lignes blanches, par exemple, ce genre de choses, tout ça fait appel à de l'intelligence artificielle. Sur les réseaux sociaux, les recommandations d'articles, c'est-à-dire l'ordre dans lequel apparaissent les articles de votre fil d'actualité, tout ça, ce sont des décisions qui ont été prises automatiquement sur base d'analyse de données, sur base de cette externalisation de fonctions cognitives que je mentionnais précédemment.
Alors pour bien comprendre le fonctionnement de l'IA, il faut commencer par faire la différence entre deux méthodes pour programmer, quand on veut programmer une machine, quand on souhaite qu'elle réalise certaines tâches. C'est quoi ces deux méthodes principales ?
Il y a un peu deux approches dans cette externalisation de fonctions. La première, et qui est apparue d'ailleurs en premier, c'est ce qu'on appelle les systèmes experts. C'est-à-dire, à partir du moment où on veut automatiser une tâche, eh bien, on va se mettre autour de la table et essayer d'intégrer dans la machine toute l'expertise humaine que l'on a pour la réalisation de cette tâche. Et donc, on va établir un certain nombre de règles, c'est-à-dire, on va dire, voilà, si tu reçois tel type de données, tu dois la traiter de cette manière-là, la combiner avec tel autre pour ensuite produire tel résultat. Donc, on va lui expliciter exactement le raisonnement que la machine doit faire pour arriver au résultat. C'est ce qu'on appelle un système expert, et ça nécessite, d'une certaine manière, de mécaniser cette expertise, de découper notre expertise en une succession de petites étapes que la machine va pouvoir faire. Et ça, il faut l'expliquer à la machine. Donc ça, c'est les systèmes experts. Ces systèmes experts sont encore utilisés dans beaucoup d'applications. Il y a notamment des exemples dans le domaine bancaire, par exemple, pour l'attribution d'un emprunt hypothécaire, ou dans la question des assurances. Ben voilà, on a modélisé l'expertise des humains dans ce domaine-là pour prendre des décisions de manière automatique. Le second système est basé sur un mécanisme fondamental qui est le mécanisme d'apprentissage. Et là, l'approche est radicalement différente, c'est-à-dire qu'au lieu de se mettre autour de la table et se dire comment est-ce qu'on va formaliser notre expertise, on va dire non, on ne fait rien, on va créer une machine qui, à la base, ne connaît rien, mais qui a tous les câblages nécessaires pour apprendre d'elle-même à partir de données qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'on ne va plus lui expliquer le raisonnement qu'elle doit tenir, mais on va lui donner des exemples de décisions qu'elle doit prendre. C'est-à-dire, on va lui dire, voilà, si on te propose cette donnée-ci en entrée, tu dois me donner cette décision-ci en sortie. Et on va le faire comme ça des milliers, des millions de fois. Et la machine va d'elle-même faire les connexions et d'elle-même inférer le raisonnement à suivre pour pouvoir donner les décisions qui sont attendues.
Par exemple, si on demande à la machine de reconnaître si c'est un chat ou si ce n'est pas un chat.
Voilà, c'est un exemple assez connu parce que ces mécanismes d'apprentissage, les réseaux de neurones artificiels ont particulièrement été développés au départ dans le traitement de l'image. Et il y a effectivement cette question de la reconnaissance d'image, et là-dessus, les réseaux de neurones artificiels sont devenus extrêmement performants. Et effectivement, pour reconnaître un chat, eh bien, on ne va pas expliquer à la machine, voilà, pour reconnaître un chat, tu dois bien faire attention qu'il y a des petites oreilles pointues, qu'il y a des moustaches, qu'il y a des poils, que ça a plus ou moins cette taille et cette forme-là. Non, on ne va pas faire ça. On va juste lui donner un très, très grand nombre d'images de chats, tous les plus diversifiés possibles, on va dire. Et en lui donnant suffisamment d'images de chats et en lui disant « ceci, c'est un chat », eh bien, la machine va apprendre d'elle-même comment analyser ces images pour identifier les points saillants, les caractéristiques saillantes qui lui permettent de déterminer qu'effectivement, c'est un chat.
L'IA a connu plusieurs hivers technologiques, c'est-à-dire des périodes de limitations techniques qui ont ralenti son développement. Mais ces 10 dernières années, 3 conditions favorables ont permis de donner un nouveau souffle à l'IA. Quelles sont ces avancées fondamentales ?
La première, donc j'ai dit, c'est une jeune discipline d'une 60aine d'années, mais il ne faut pas négliger non plus que ces dernières années, ces mécanismes d'apprentissage, ces algorithmes d'apprentissage, ces réseaux de neurones artificiels ont véritablement pris un essor, c'est-à-dire qu'ils ont été améliorés, ils ont été optimisés, notamment dans les questions de convergence et de backpropagation, comme on dit en anglais, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, les techniques en elles-mêmes ont été améliorées. Mais les deux autres facteurs qui ont véritablement permis le boom que l'on connaît aujourd'hui, c'est d'une part le volume des données disponibles. Donc je l'ai dit, pour apprendre, il faut avoir des données d'exemple. Or, on est aujourd'hui dans une ère de numérisation, de digitalisation de notre monde, et donc ça tombe vraiment bien, puisqu'on a à notre disposition une quantité absolument gigantesque d'informations numériques, d'informations digitales, à notre disposition, qui peuvent servir à entraîner ces machines, ce qui n'était pas le cas avant, quand on a commencé à travailler sur ces théories. Donc ça, c'est la première chose, c'est le volume des données disponibles. On dispose d'énormément de photos de chats, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant. Et le deuxième point vraiment nouveau, disons, ces dernières années, c'est l'augmentation de la puissance de calcul. On sait que la puissance de calcul a augmenté exponentiellement durant les dernières décennies. Et le fait de pouvoir disposer d'une très grande puissance de calcul, ça nous permet précisément d'entraîner des modèles de plus en plus gros. Et donc la combinaison du volume de données, de l'augmentation de la puissance de calcul et de l'amélioration quand même de ces techniques d'apprentissage, eh bien ça a donné le boom, l'explosion des performances de l'intelligence artificielle que l'on connaît aujourd'hui.
Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on fait souvent référence au fonctionnement du cerveau humain. Vous en avez parlé, des réseaux de neurones. Pourtant, cette comparaison, elle n'est pas vraiment pertinente. Pourquoi ?
On s'inspire du fonctionnement du cerveau humain, mais on ne copie pas vraiment le cerveau humain. C'est-à-dire que quand on parle de neurones artificiels, il ne s'agit pas d'un neurone qu'on aurait fabriqué en laboratoire biologique avec des éléments organiques. Non, en fait, on s'est inspiré de la manière dont on comprend aujourd'hui le fonctionnement du neurone humain pour le modéliser par une fonction mathématique qui est en fait très simple. Et donc, on a appelé ça un neurone artificiel. Mais donc, c'est important de bien comprendre que l'on s'inspire de la nature et pas qu'on la copie. Un bon exemple à ce niveau-là, c'est par exemple le fait de pouvoir voler. Hein, les avions volent dans le ciel, bien sûr. Eh bien, à la base, le fait de pouvoir voler, on l'a constaté parce qu'on a vu passer des oiseaux, et ça, c'était la preuve physique que des objets plus lourds que l'air pouvaient voler. Bien, alors on s'est dit, c'est possible, on a étudié l'aérodynamique, etc. Et on a fini par fabriquer des avions. Mais on n'a pas pour autant fabriqué des avions qui battaient des ailes ou qui avaient des plumes. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est bien ça, c'est cette inspiration de la nature pour aller vers de l'innovation et de la technologie.
Maintenant qu'on a un peu mieux compris comment fonctionne l'IA, on va aller un peu plus loin en parlant des modèles de langage. Ce sont eux qui ont permis l'émergence des formes les plus avancées de l'intelligence artificielle aujourd'hui, comme ChatGPT, la star des chatbots. Un chiffre en passant, pour parler de ChatGPT sans s'éterniser, il y a eu en février 1 milliard d'utilisateurs qui ont interagi avec ce robot conversationnel, ce qui en fait l'application avec la vitesse d'adoption la plus rapide de l'histoire. Donc ça, c'est quand même vraiment marquant. Même si on l'a dit, la technologie n'est pas nouvelle, la possibilité de converser en langage dit naturel avec une machine, ça fait une très grande différence. Pourquoi ?
Eh bien, en fait, parce que la grande nouveauté ici, c'est précisément la fluidité et la simplicité de l'interface. C'est-à-dire, OpenAI, donc la société qui a mis à disposition ce chatbot, ChatGPT, a surtout fait une opération, disons, marketing, dans le sens où la technologie existait effectivement déjà depuis quelques années, en mettant à disposition une interface extrêmement facile pour pouvoir aller converser comme on le ferait avec un humain, à propos de n'importe quel sujet. Et c'est ça, finalement, la grande nouveauté, et qui le rend tellement accessible au grand public. Et ça a été ça aussi, l'intelligence, disons, d'OpenAI, c'est de fabriquer un outil avec ce type d'interface aussi simple et fluide.
Effectivement, c'est assez bluffant, parce que quand on lui pose une question, on tape une question dans la barre de recherche, eh bien, on reçoit une réponse qui, en fait, s'affiche au fur et à mesure, comme si quelqu'un était en train de taper à l'ordinateur. C'est ça ?
Absolument. Et quand vous dites « on a l'impression que quelqu'un est en train de taper à l'ordinateur », eh bien, c'est un phénomène classique qu'on appelle l'anthropomorphisation, c'est-à-dire de prêter des caractéristiques humaines à, en l'occurrence ici, une machine. Et ce qui rend véritablement puissant et performant ChatGPT, c'est cette anthropomorphisation, c'est-à-dire le fait que l'on prête à cette machine des traits humains qu'elle n'a pas nécessairement. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il faut aussi s'en méfier, disons, par rapport aux résultats ou aux performances qu'on peut en attendre.
Finalement, il est très facile de prendre l'IA pour ce qu'elle n'est pas, en lui attribuant, par exemple, des intentions ou même une personnalité qu'elle n'a pas.
Exactement, et c'est ça aussi qui nous fait en attendre ou qui nous fait lui prêter des performances ou une intelligence qu'elle n'a pas nécessairement. Il faut bien comprendre que ChatGPT est un moteur d'inférence statistique de texte, c'est-à-dire qu'elle va générer du texte sur base de la requête que l'on a donnée, sur base de la question que l'on a posée. Elle va mettre bout à bout les mots qui sont les plus probables, mais elle va le faire de manière extrêmement performante et de manière très convaincante. Donc, elle va davantage fabriquer des réponses qui sont vraisemblables, qui sont effectivement convaincantes, très assertives aussi d'ailleurs, mais sans nécessairement du tout avoir de garantie qu'il s'agit d'informations vraies ou de connaissances avérées.
Alors, du coup, est-ce que ChatGPT est bête ou super intelligent ?
La question est un petit peu mal posée, c'est-à-dire, enfin, pardonnez-moi, mais à partir du moment où on comprend que c'est un outil de synthèse de texte, eh bien, en fait, on va pouvoir l'utiliser dans des cas très précis. Et là, il s'agira d'un outil extrêmement performant, hein, pour avoir des idées, pour résumer de l'information, pour... voilà, il y a toutes sortes de cas dans lesquels on va pouvoir l'utiliser de manière très efficace et très, très, très intelligente, justement. Et d'autre part, il faut bien avoir en tête que c'est un outil qui n'est pas capable de raisonner, qui n'est pas capable d'abstraire des concepts, qui n'est pas capable de comprendre le monde sensible, donc la réalité qui nous entoure, de planifier des choses. J'aime bien parfois prendre faire référence au mythe de la caverne de Platon, hein, vous savez, qui consiste à voir les hommes comme enfermés dans une caverne et voir la réalité comme des ombres portées sur le mur de la caverne. Eh bien, il faut imaginer que ChatGPT est dans la caverne et qu'elle écoute des hommes parler des ombres qu'ils voient sur le mur. C'est-à-dire, ça montre qu'elle est quand même assez déconnectée, si vous voulez, de la réalité sensible, du monde sensible, et qu'elle ne fait que nous écouter parler, disons.
Donc si je résume, ChatGPT est très puissant, pas toujours fiable, et on attend énormément de lui parce qu'on le considère à tort comme un génie. Selon vous, Antonin Descamp, au-delà des chatbots, quelles sont les limites fondamentales de ce type d'intelligence artificielle ?
Mais à mon sens, la première limite dont on a déjà que l'on a déjà évoqué, eh bien c'est ce manque de fiabilité. Il est avéré que un outil comme ChatGPT ou comme d'autres outils conversationnels peuvent tout à fait comme on appelle halluciner, c'est-à-dire raconter absolument n'importe quoi et encore de manière très convaincante. Donc cette question de la fiabilité, le fait que cela produit du vraisemblable et pas du vrai, ça c'est une limite importante dont il faut tenir compte. De nouveau, ça n'empêche pas de l'utiliser à très bon escient, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième limite que je vois, qui est une limite plus large d'ailleurs dans l'intelligence artificielle, c'est le manque d'explicabilité. C'est-à-dire que ces modèles de langage ont lu énormément de choses, presque la totalité d'Internet, on va dire, mais ne sont pas en mesure, lorsqu'ils donnent une réponse, de dire, voilà, je me suis inspiré de tel texte et puis j'ai été prendre tel autre texte, en gros, de citer leurs sources. Or, dans énormément de cas, dans énormément de décisions automatiques qu'il faut prendre, il est absolument crucial de pouvoir citer ses sources, de pouvoir expliquer comment est-ce qu'on en est venu à prendre ces décisions. Et à ce niveau-là, il y a également cette deuxième limite sur l'explicabilité de ces modèles de langage et plus généralement des outils d'intelligence artificielle. Et je dirais que la troisième limite, c'est une limite qui est liée au ce qu'on appelle les biais. Alors, les biais, c'est quoi ? Eh bien, comme je l'ai dit, un outil d'intelligence artificielle qui apprend, elle apprend sur un certain nombre de données. Et à partir du moment où ces données sont biaisées, contiennent des biais qui peuvent être sexistes, racistes, des discriminations en tout genre, eh bien, il n'y a aucune raison, puisque l'intelligence artificielle a appris sur ces données, qu'elle ne reproduise pas ses biais dans ses réponses. Et ça, c'est une limite additionnelle. Et on le verra peut-être après, il y a des garde-fous qui sont mis en place pour justement empêcher que des modèles de langage puissent donner des réponses toxiques ou racistes ou que sais-je. Mais même dans ce cas-là, l'apprentissage qui s'est fait, la surcouche qu'on a ajoutée pour remettre, disons, un outil conversationnel comme cela sur les rails, comporte également des biais, en fait. Et là, c'est plus subtil à comprendre, mais c'est important de saisir qu'il y a également des biais dans le fait de demander, par exemple, demander un feedback humain à un ensemble de personnes qui vont dire « Ok, évaluer telle ou telle réponse », et des humains qui vont dire « Voilà, cette réponse-ci est meilleure ». Il y a également un biais dans cette approche-là.
Alors, on va revenir justement sur cette surcouche de contrôle. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur ce que vous appelez les risques de désordre informationnel massif.
À partir du moment où le contenu auquel on est confronté, qu'il s'agisse d'ailleurs de texte ou d'image, hein, puisqu'il y a des outils qui génèrent également des images, on se retrouve dans une situation où on n'a plus vraiment la possibilité de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. On va se retrouver dans une situation, un contexte informationnel dans lequel il sera très difficile de dire si un contenu a été généré par un ordinateur, par une intelligence artificielle ou par un humain. Si il s'agit d'une photo qui a véritablement été prise dans la réalité ou s'il s'agit d'une photo produite par une intelligence artificielle. Et donc là, évidemment, il y a un risque de désordre informationnel, et je parle bien de désordre informationnel plus que de désinformation, car la désinformation, c'est un risque évidemment majeur également, mais il y a une intention malveillante. Mais en fait, le risque est beaucoup plus large que ça. On se retrouve dans un risque où il va y avoir énormément, disons, de confusion, même s'il n'y a pas nécessairement d'intention malveillante dans la diffusion d'informations ou de contenu. On se retrouve dans une situation où on ne sait pas ce qui est faux, ce qui est vrai. On est dans un état de confusion, et ça peut empêcher, disons, les citoyens dans les sociétés démocratiques, eh bien, de prendre des choix éclairés et de empêcher, disons, le fonctionnement sain de nos régimes démocratiques.
On voit aussi à la base que les entreprises qui développent ces intelligences artificielles brident leur modèle. Par exemple, pour proscrire tout contenu pornographique, illégaux, haineux, violents, ou pour favoriser le harcèlement ou l'exploitation d'enfants. Les robots aussi doivent se garder de donner des conseils juridiques, financiers ou médicaux, sans compter les enjeux culturels et politiques liés au climat, l'égalité des sexes, vous l'avez cité, ou au jugement de personnalité publique. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ce filtrage des réponses est indispensable, et ce sont en général des humains qui s'en chargent.
Absolument, c'est une surcouche, disons, par rapport, on a le modèle de langage, mais au-dessus de ce modèle de langage, on va demander à des humains de classer des réponses ou de générer des réponses idéales, disons, de manière à éviter précisément que un outil comme ChatGPT sorte des réponses qui sont toxiques. Enfin, voilà les exemples que vous avez cités. Et effectivement, donc c'est un travail humain qui est souvent d'ailleurs invisibilisé, mais qui comporte également un certain nombre de biais. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte qu'ici, il s'agit d'une entreprise privée, OpenAI, qui sous-traite à des personnes bien réelles, comme vous et moi, le fait de décider si telle réponse est correcte et telle autre ne l'est pas. Et donc, on peut aussi se poser la question de savoir la légitimité qu'a une société comme OpenAI de décider finalement qu'est-ce qui est une bonne réponse, qu'est-ce qui est une mauvaise réponse. Alors, je ne dis pas qu'OpenAI a des intentions malveillantes, mais on peut imaginer que les intérêts d'OpenAI, qui est une société privée qui vise la rentabilité, c'est bien normal, ne sont pas nécessairement alignés avec l'intérêt général ou représente du moins la diversité des points de vue et la richesse aussi qui fonde nos sociétés.
D'un point de vue universel, parce que cette application finalement fonctionne dans le monde entier.
Voilà, et c'est précisément ça l'enjeu. Ce serait un outil assez confidentiel utilisé dans des niches très, très spécifiques. Ce ne serait pas encore trop problématique, quoique. Mais ici, c'est la combinaison du fait que c'est, comme vous l'avez dit, cela devient une espèce d'outil universel, d'interface universelle utilisée partout sur la planète, avec donc des décisions qui sont prises sans aucun contrôle par une société privée qui a ses intérêts et qui pourrait donc procéder, qui pourrait développer une forme d'homogénéisation culturelle ou de formatage de la pensée issue donc de cette société OpenAI.
Si je comprends bien, l'enjeu aujourd'hui, en fait, c'est d'être capable de piloter ces intelligences artificielles tout en posant des garde-fous, sans pour autant limiter finalement la puissance de la technologie, qui dépend d'une forme d'autonomie dans le raisonnement. Bon, c'est assez complexe, mais en gros, on essaie de piloter ces intelligences artificielles.
On en parle beaucoup ces derniers temps, de l'alignement de ces outils avec les objectifs qu'on lui donne. Mais la question, de nouveau, est un petit peu mal posée quand on parle d'alignement de ces outils. C'est précisément, à mon sens, plutôt l'alignement des sociétés qui produisent ces outils qu'il faudrait s'assurer de réguler ou en tout cas de cadrer plutôt que de parler de l'alignement d'outils dont on pourrait perdre le contrôle par exemple ou des choses comme ça. Donc il faut davantage travailler sur les objectifs que les sociétés qui produisent ces outils se donnent dans la mise à disposition de ces outils.
Vous avez parlé de perte de contrôle et on a vu qu'il y avait 2500 experts qui ont publié une tribune pour expliquer que ça va trop vite et que ça devient dangereux. Certains appellent à un moratoire. Selon vous, est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'il y a vraiment un risque d'être dépassé par la technologie?
Sur la question du moratoire, d'abord, ce n'est absolument pas réaliste. Personne ne va s'arrêter pendant 6 mois. Enfin, comment est-ce qu'on peut imaginer mettre ça véritablement en pratique? Et en plus, le danger de cette proposition de moratoire, c'est que ça a précisément détourné le débat vers ces fantasmes ou ces dangers potentiels d'une intelligence artificielle qui prendrait le contrôle de l'humanité. Et cela nous détourne, en fait, en grande partie, des enjeux absolument cruciaux de l'intelligence artificielle que j'ai mentionné, qui sont notamment cette question du désordre informationnel massif. Il y en a d'autres, le coût environnemental et le coût humain, l'invisibilisation du travail humain, qui sont les problèmes majeurs et très concrets de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui ne sont pas d'ailleurs des problèmes vraiment neufs, on les trouve dans d'autres, avec d'autres technologies également, mais qu'il s'agit d'adresser. Et cette question du moratoire, en disant attention, on va construire quelque chose qui va nous manger tout cru, si je peux dire, c'est un peu une forme de diversion, de distraction, et même aussi, je dirais, un élément marketing en faveur de ces outils, en disant regardez, on crée quelque chose de tellement puissant que cela pourrait mettre fin à l'humanité. Il y a quelque chose d'un peu vendeur, d'un peu marketing là-dedans.
Oui, et puis il y a une question dont on n'a pas eu le temps forcément de parler, mais c'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on doit le faire. Il y a une différence entre ce qui est possible techniquement et ce qui est souhaitable moralement, parce que en fait il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés.
La différence entre ce qui est possible techniquement et ce qui est souhaitable moralement, justement pour apprécier cette différence et pour développer une innovation qui soit porteuse de sens et qui soit souhaitable moralement, eh bien ça nécessite pas à pas d'essayer de résoudre les enjeux concrets de l'intelligence artificielle aujourd'hui au fur et à mesure où il se présente.
Merci beaucoup Antonin Descamps. Je rappelle que vous êtes professeur en innovation média et journalisme à l'UC Louvain et ingénieur de formation. On vous retrouve dans l'épisode suivant où nous allons voir comment l'intelligence artificielle s'insinue partout dans notre quotidien et pourrait, dans un avenir proche, remettre en cause le monde du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous venez d'écouter En clair, le podcast de l'Écho qui vous donne les clés pour comprendre une tendance ou une innovation qui pourrait changer la donne. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à en parler autour de vous.
L'intelligence artificielle repose sur principalement 2 choses.
Patrice Latine est docteur en intelligence artificielle. Il est aussi partner data et intelligence artificielle pour l'organisation EY.
D'une part, des algorithmes assez particuliers, et d'autre part sur des données. Et autour de ça, le software, la capacité à orchestrer les deux. Les algorithmes apprennent sur les données, ce qui en fait vraiment la particularité de l'intelligence artificielle, cette capacité d'apprendre et à généraliser ce que l'algorithme a appris pour pouvoir résoudre un problème donné. Ça fait beaucoup d'années que l'intelligence artificielle est décrite comme une révolution. Maintenant, depuis quelques mois, depuis l'apparition, la popularité de ChatGPT et de l'IA générative, il y a un côté extrêmement convivial à l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans le sens où on peut interagir sans en comprendre la complexité nécessairement. Et un côté extrêmement performant à cette intelligence artificielle, qui fait que ça surprend énormément le citoyen, les utilisateurs, et d'autre part, ouvre énormément de possibilités bien plus loin que ce qu'on imaginait auparavant. Et même les plus grands experts, même les inventeurs même ou les créateurs de ChatGPT sont surpris par toutes les possibilités offertes par ChatGPT et tous ces modèles sur le côté. On ne comprend pas toute l'étendue aujourd'hui des possibilités offertes par les IA génératives. D'abord parce que c'est basé sur un volume de données quasiment incommensurable. Et d'autre part, parce que les réponses que donnent ces IA génératives sont multiples. Permettent d'une part de répondre à des questions relativement simples sur base d'une historique d'informations. Poser la question « quel est le président des États-Unis », il sait répondre assez facilement. Mais ça va beaucoup plus loin, vraiment beaucoup plus loin que ça. On dit clairement que ça va être une révolution, que ça va être disruptif à tous les niveaux d'une organisation. L'IA générative aujourd'hui est capable de générer entièrement un programme informatique, est capable de générer une image sur base d'instructions relativement claires et précises, et la capacité d'interagir aussi avec le ChatGPT ou quelque chose d'équivalent permet réellement d'aller très loin, voire même de débugger, c'est-à-dire de résoudre les erreurs que cette intelligence artificielle réalise dans une première instruction ou une deuxième instruction. Et donc, elle se corrige elle-même sur base de l'interaction qu'on peut avoir avec elle. Pour les banques, pour les assurances, quand la banque pourra, par exemple, particulariser la manière dont un ChatGPT fonctionne à son métier, dans le détail, de pouvoir à la fois bénéficier d'un large language model comme ChatGPT tel qu'il est construit aujourd'hui et l'ajouter une connaissance bancaire particulière, ça va réellement relever beaucoup d'obstacles sur, par exemple, la manière de gérer un paiement de bout en bout pour un client, la manière de gérer un sinistre si on part dans l'assurance de manière plus automatique, de pouvoir aussi interagir différemment avec le client, de manière plus personnalisée ou de manière plus automatique selon les circonstances. Donc on ne connaît pas les limites à ce niveau-là et qu'est-ce que ça va devenir, non pas dans les années qui viennent, mais même dans les prochaines semaines ou les prochains mois.